Esprit de justice qui, ce soir, va aborder un terme qui concerne les relations entre le numérique et la justice, dont on parle souvent dans l'émission, mais ce soir, il sera question d'OSINT. Le renseignement en source ouverte, plus connu sous son acronyme anglais OSINT, pour Open Source Intelligence, désigne la capacité de collecter et d'exploiter des données ouvertes, c'est-à-dire disponibles, sans avoir besoin de recourir à des moyens légaux ou coercitifs, ni à la ruse ou au piratage. Non seulement le nombre de traces numériques s'est massifié, mais les sources se sont multipliées et diversifiées, chacun d'entre nous devenant malgré soi producteur d'informations exploitables par la police et la justice. L'agrégation de ces informations multiples et hétérogènes s'est de surcroît rationalisée et automatisée. Il devient possible à quiconque, aux ONG, aux services de police ou au gouvernement aussi, de croiser des informations, textes, sons ou images issues de réseaux sociaux ou extraits de sites web ou de photos satellitaires en utilisant par exemple la technique de la reconnaissance faciale, de la théorie des graphes ou encore celle du scrapping afin de reconstituer une scène de crime, d'en identifier les auteurs et de permettre à chacun de visualiser en quelque sorte cette exaction. L'OSINT atteint une précision à laquelle ne peut prétendre l'actuelle confrontation contradictoire des preuves et des témoignages humains tels que l'organise notre procédure. Cette métrique nouvelle de la preuve permet de saisir la dynamique d'une action et elle offre des possibilités d'interprétation interactive des faits, à proprement parler inimaginables encore hier, et une métrique qui renouvelle non seulement l'organisation du procès pénal, mais également l'équilibre des preuves, le rapport savoir-pouvoir qui est si fort dans la procédure française et bien d'autres choses encore. Alors, comment aborder cette véritable révolution dans la preuve et dans la justice pénale? Comment intégrer les OSINT dans procès sans bouleverser les fondamentaux, les valeurs de ce procès? Voilà quelques questions qu'on va se poser ce soir avec plusieurs spécialistes, avec compagnie d'Aurélie Aumettre tout d'abord, qui est assistante spécialisée auprès des juges d'instruction du pôle crimes contre l'humanité et crimes de guerre du tribunal judiciaire de Paris. Hervé Le Toqueux, qui est un ancien assistant spécialisé cyber auprès du pôle antiterroriste du même tribunal. Et Hervé Le Toqueux a fondé l'association Open Facto, spécialisée dans l'investigation en sources ouvertes, à l'OSINT, en d'autres termes. Et enfin, Galdric Fleury est architecte et réalisateur. Et il a cofondé, lui, l'agence Focale, spécialisée dans la reconstitution tridimensionnelle d'événements de crimes ou d'accidents.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les trois et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors l'exercice que je vais vous demander, c'est d'abord d'expliquer aux auditeurs quelque chose qui est essentiellement visuel. Hervé Le Toqueux, c'est l'OSINT, ce sont des données qu'on traite, qu'on exploite, mais qui reconstituent des images.
Oui, c'est tout à fait le paradoxe de cette émission de ce soir. Nous sommes à la radio et c'est très compliqué finalement d'expliquer un phénomène assez visuel, puisque la recherche en source ouverte, c'est la recherche d'informations sur Internet et par définition, c'est une recherche d'éléments graphiques.
Oui, mais les auditeurs qui passent leur temps devant leur portable, leur téléphone portable, leur mobile, savent ce que c'est que de chercher des informations sur Internet.
Eh ben, c'est exactement ça l'OSINT en fait. L'OSINT, vous l'avez déjà défini un petit peu en introduction, c'est la recherche d'informations en source ouverte, en français.
C'est-à-dire qui sont disponibles, que n'importe qui peut trouver.
Exactement. Et c'est vrai que Internet a permis en fait ces 15 dernières années, 17 dernières années, d'augmenter ses capacités, puisqu'aujourd'hui on peut trouver de l'information quasiment en tout point du globe avec une simple connexion Internet et accéder en fait à un niveau d'information extrêmement conséquent.
Alors, Aurélie Aumettre, vous travaillez pour les crimes de masse et les crimes contre l'humanité dans des pays dans lesquels on ne peut pas mettre les pieds souvent, et j'imagine que cette technique de l'OSINT vous aide beaucoup.
Oui, effectivement. En fait, le recours à l'osint n'est pas nouveau, puisque dans les années 90, dans les années 2000, d'autres tribunaux, notamment pénaux internationaux, ont eu recours à de la preuve audiovisuelle.
Oui, avec des échecs parfois. Hein.
Avec parfois, effectivement, oui. Des échecs. Et dans des conflits plus récents, et M. Letoqueux vient de l'expliquer, en fait, avec de plus en plus de preuves diffusées, notamment sur les réseaux sociaux, l'utilisation de smartphones, en fait, avec une documentation en temps réel, parfois des conflits. On a notamment eu les printemps arabes dans les années 2010-2011 qui ont révolutionné ce recours à l'osint. Et en fait, c'est devenu quelque chose qui s'est imposé dans les procédures judiciaires progressivement, puisque c'est comme ça que sont constitués aussi en partie les dossiers.
Voilà, et qu'on recrute des assistants spécialisés, que vous êtes tous les deux, pour aider à capter ces preuves et à les exploiter. Mais j'ai l'impression que la Syrie, Hervé Letoqueux, la Syrie a été un tournant quand même, la guerre en Syrie.
Oui, alors effectivement, ça a été un tournant parce que le conflit syrien émerge en fait concomitamment avec une forme. Enfin, tout le monde avait un smartphone sur dans sa poche, et une des manières de résister, ou en tout cas de documenter ce conflit à l'époque ou ces événements, ça a été de filmer et de diffuser ces images sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc elles étaient accessibles depuis l'étranger. Et le point important, c'est surtout ça, c'est qu'avec l'OSINT, on peut documenter des événements qui se déroulent en zone de guerre, là où les magistrats, là où la justice ne peut pas forcément se déplacer, soit directement au moment des événements, soit même plusieurs années après.
Alors vous disiez qu'on utilise le portable comme une action, comme un activisme civique des droits de l'homme. Mm-hmm. Ça a été particulièrement vrai en Syrie, mais il y a aussi un piège pour, je pense à Daesh, qui a beaucoup communiqué, qui a beaucoup filmé, qui a diffusé beaucoup d'images horribles d'ailleurs, Aurélie Aumettre, des images horribles, mais finalement qui se sont retournées contre certains de ses membres.
Complètement. En fait, les images qui sont aussi utilisées, notamment en matière de propagande et en matière d'idéologie par certains groupes, en fait, sont en elles-mêmes des images que la justice va utiliser et va conserver en tant que preuve, analyser, en vérifier aussi l'authenticité, etc.
Il y a quelqu'un en France qui a été condamné sur cette base-là.
Oui, parce qu'il y a effectivement des individus qui sont filmés dans le cadre d'exactions. Ils sont même visibles, en fait, sur ces vidéos. Il y a eu une condamnation, notamment en matière antiterroriste. Et puis, il y a aussi des condamnations, peut-être pas toujours des condamnations, mais en tout cas, même à l'international, devant la Cour pénale internationale, il y a différentes procédures qui étaient ou qui sont en cours avec des vidéos, je pense aussi à des destructions de mausolées pour des affaires maliennes où on voit...
L'affaire de Tombouctou qui a été déterminante, parce que ça a été la preuve déterminante.
Exactement, avec des vidéos, mais aussi, par exemple, la délivrance d'un mandat d'arrêt contre un commandant libyen a pu être délivré sur la base d'une vidéo où on le voyait en fait commettre lui-même des assassinats en tant que crime de guerre. Donc c'est des preuves qui sont aussi utiles pour identifier des responsables éventuellement.
Alors c'est ça, là les auditeurs ont compris qu'on parle d'images qui sont captées et qui sont croisées et travaillées par les services de police et services de justice. Mais alors vous, Galdric Fleury, vous faites une activité qui est un peu différente, c'est que sur commande, à la demande de la justice, vous reconstituez des scènes de crime.
Oui, tout à fait. Nous, on arrive en aval de ces récoltes-là, en fait. Et on vient analyser les sources audiovisuelles qu'on reçoit pour reconstruire des enchaînements logiques, en fait, et comprendre les actions qui se sont produites dans ces événements qui sont filmés. Et ensuite, on crée des maquettes virtuelles où on vient rassembler toutes ces preuves, agréger toutes ces éléments de preuves pour reconstruire l'événement et reconstruire surtout les positions précises des acteurs, des protagonistes et leur dynamique.
Oui, leur dynamique, c'est très important, les dynamiques, parce que la reconstitution par des témoignages ou la reconstitution, même la reconstitution que font les juges avec les services de police pour des crimes, on a du mal à voir la dynamique, alors que par définition, vous arrivez à reconstituer par ces techniques d'OSINT, mais qui sont très, très, comment dirais-je, spécialisées dans la reconstitution d'un événement.
Oui, voilà, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on on utilise le modèle 3D comme une base de données, mais une base de données dont les entrées sont principalement spatio-temporelles. C'est-à-dire que on est capable de revenir en avant et en arrière dans un événement comme on le souhaite, en localisant toutes les sources de preuves, dont les vidéos. Et donc d'utiliser la temporalité des vidéos et des images pour reconstruire ces événements précisément.
C'est ça, reconstruire ces événements, et ça veut dire que quand il y a, je pense, des manifestations, quand il y a énormément d'acteurs, vous croisez aussi, vous arrivez à reconstituer l'espace. C'est ça finalement, c'est ça la qui est quelque chose que pratique déjà l'architecture, sauf que vous le faites pour un événement.
Oui, tout à fait. Alors on peut utiliser plusieurs techniques pour cela. On peut utiliser de la modélisation, mais aussi du scan 3D pour revenir en revenant sur la scène de l'événement et en créant des nuages de points qui vont nous permettre d'avoir un espace extrêmement précis dans nos logiciels pour pouvoir ensuite replacer les vidéos et les acteurs à l'intérieur de ces espaces.
Mais alors, Hervé Letoque, vous avez beaucoup d'éléments qui sont sur les réseaux sociaux, que les images qu'ont produites eux-mêmes les gens. D'ailleurs, en Ukraine, je crois que Zelensky a transformé tous les citoyens ukrainiens en des agents de renseignement pour la protection même de l'Ukraine.
Absolument. C'est une forme de résistance.
Oui, toujours, façon. Comme
en Syrie. Il y a en Ukraine tout un programme de collecte d'images également pour documenter des crimes de guerre sur place. Et c'est à ça que servent ces images.
Mais alors, il y a aussi un élément dont on n'a pas encore parlé, mais qui est tout à fait déterminant, c'est l'élément aérosatellitaire. C'est-à-dire que il est possible, alors je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre, il est possible maintenant de commander et d'avoir des images prises par des satellites, et des satellites qui sont à la disposition de tout le monde. Il suffit de demander. Hervé Letoque.
Exactement. Alors, l'outil de base qu'on utilise en OSINT, ça reste une application qui est développée par un géant américain qui s'appelle Google, et ça s'appelle Google Earth, documenter ses vacances, souvent. Oui. En OSINT, on l'utilise effectivement pour avoir recours à tout un historique de cartes satellitaires qui sont disponibles librement. La résolution aujourd'hui, elle est tout à fait utilisable pour faire de l'OSINT. On est autour de, pour les spécialistes, de 50 cm par pixel, ce qui permet d'avoir une bonne vue sur ce que peut être un bâtiment. Mais en plus de ça, on peut effectivement commander sur tout un tas de plateformes des tuiles satellitaires. Ce sont des images de carrés d'environ 100 km², 10 km par 10 km, réactualisées très souvent. Donc ça, c'est une première source d'information. Et puis l'Europe a lancé, il y a plusieurs années maintenant, un programme qui s'appelle Sentinel Hub, qui permet également d'avoir recours à des images qui sont celles-là gratuites, librement téléchargeables, qui sont réactualisées toutes les semaines. Alors, une résolution, certes, beaucoup moins importante, beaucoup moins précise, mais qui permet là aussi de documenter, par exemple, des fosses communes, notamment en Syrie, ça a été utilisé pour ça, ou alors des feux de huttes au Sahel, par exemple, lors de massacres ethniques. C'est tout à fait possible de les documenter à l'aide de ces images gratuites.
C'est ça. Et il y a des services cartographiques en France, Galdric Fleury, qui sont aussi très performants, c'est assez nouveau, et qui sont disponibles.
Oui, tout à fait. Il y a l'IGN qui fait des cartes maintenant LIDAR, en fait, où il vient scanner avec des drones l'intégralité du territoire français. Et donc on peut avoir accès à ces nuages de points, encore une fois, qui recréent le volume des bâtiments et des villes françaises. Pour le moment, c'est pas la carte n'est pas complète, mais c'est en cours.
C'est en cours, et il y a la moitié de la France, d'ailleurs, je crois, qui est déjà couverte. Mais je pensais, moi, à... Oui, Aurélie...
Oui, sur les aspects de cartographie, j'ajoute également que donc on travaille avec des gendarmes et des policiers, un office dédié, et ils ont recruté récemment un cartographe, en fait. Hein, donc, il y a un réel besoin de bénéficier, en fait, de ce type... d'éléments.
Alors, on parle beaucoup de crimes de masse, bien sûr, c'est votre job, le pôle anti-terrorisme, mais en réalité, il n'y a pas que les crimes de sang qui peuvent être documentés par de l'OSINT. Hervé Letoque, il y a aussi des crimes financiers. Et il s'avère que en matière de lutte contre la corruption ou de lutte contre la criminalité organisée, il y a pas mal d'événements beaucoup moins spectaculaires qui partent de l'OSINT.
Absolument, on peut... Alors, il y a plusieurs angles, effectivement, pour rester dans le domaine de l'image. Lorsque vous souhaitez documenter la vie d'un oligarque russe, disons, par exemple, évidemment, ça va être assez compliqué de trouver des images récentes de cette personne qui va avoir une tendance à masquer un petit peu son voyage. Mais travailler, par exemple, sur la famille, là où elle se déplace, constater leur présence à bord de yacht, etc., ça donne une idée du train de vie. Donc, matérialiser le train de vie, matérialiser le blanchiment dans des infractions financières, est tout à fait possible. Vous avez d'autre part, au niveau de base de données, la possibilité de consulter et de reconstituer en fait l'organigramme de société avec le bénéficiaire réel de ces sociétés. Tout l'enchevêtrement des sociétés imbriquées les unes dans les autres, toutes ces informations sont disponibles sur des registres du commerce qui sont pour l'instant encore, malheureusement c'est en train de changer puisqu'il y a eu un petit retour de règlement de jurisprudence sur le sujet, mais qui sont encore librement accessibles et qui permettent de documenter d'autres crimes que les crimes de guerre, que les crimes de masse, plutôt des crimes financiers derrière.
Alors, ce qui est un peu perturbant, Aurélie Aumaître, c'est que toutes ces informations elles sont disponibles pour tout le monde, pas uniquement pour les services de police. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont être sur le coup, si je puis m'exprimer ainsi.
C'est à la fois donc tout l'intérêt, mais en fait, on va recevoir des pièces issues de la source ouverte directement des parties, donc au sens des avocats notamment de victimes qui vont utiliser en fait ces pièces issues de la source ouverte par exemple pour construire une plainte, hein, tout simplement. On va aussi avoir des avocats de la défense, et c'est tout l'intérêt, qui vont pouvoir produire eux-mêmes des éléments, parce qu'on instruit à charge mais aussi à décharge, et c'est important de le dire, ou alors qui vont justement contester telle vidéo, telle capture d'écran, par exemple issue d'un compte Facebook. Et en fait, c'est vraiment ce qui est aussi ce qui en fait, en tout cas à mon sens, l'intérêt, c'est que tout le monde peut... Alors, à la fois, tout le monde peut faire de l'OSINT.
C'est ça, oui, tout le monde peut faire de l'OSINT.
Et en même temps, il y a des écueils aussi à cela, puisque il faut être formé, on y viendra, c'est ça. Il faut bien le faire.
Voilà. Alors, Galdric Fleury, vous êtes commandité par un juge d'instruction. C'est toujours un juge d'instruction jusqu'ici.
Jusqu'ici, oui.
Et alors, il donne des éléments à disposition, j'imagine.
Oui, oui. Aujourd'hui, on fait très peu de récoltes en général. On utilise les éléments qui sont déjà versés au dossier.
Et vous avez même des éléments qui sont des éléments privilégiés, on pourrait dire, comme des conversations avec la police, où vous avez... comment ça se passe ?
C'est là qu'en effet, l'OSINT s'arrête dans notre travail. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on a aussi accès à des sources fermées, mais on les traite un peu de la même manière, en fait, finalement. C'est-à-dire que ce que commençait à dire Aurélie Aumaître, c'est que finalement... les images sont assez ambiguës en elles-mêmes, et en OSINT, on a l'habitude de traiter les sources avec beaucoup de vigilance. Et en fait, nous, on pratique de la même façon pour toutes les formes de sources qui nous tombent entre les mains.
Mais alors, moi, la question que je me pose, vous disiez, les images sont ambiguës. Quand on reconstitue comme ça un crime, comme vous le faites, une scène de crime, est-ce que vous n'êtes pas tenté, ou comment vous faites pour ne pas raconter une histoire, ou pas pour ne pas commencer à raconter une histoire dans les éléments que vous recueillez? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce qu'il est possible de faire une reconstitution avec cette pluralité de perspectives, par définition? Est-ce qu'il est possible de le faire de manière absolument objective, Galdric Fleury?
Alors ça, je pense que c'est une question pour toute forme d'enquête, l'objectivité, évidemment.
Et pour toute forme de reportage aussi, médiatique.
Tout à fait. C'est un sujet qui est au cœur de nos pratiques à tous, je pense. Si vous voulez, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se focaliser sur la méthode, et d'essayer d'être conscient des biais qu'on peut avoir, et d'essayer de les décrire déjà au début des enquêtes. Et de rester extrêmement transparent sur toutes les hypothèses que l'on fait, et tous les choix techniques et tous les choix méthodologiques que nous faisons. Et c'est plutôt la transparence, en effet, qui va aider à faire...
Transparence, j'imagine que les juges, ils comprennent pas grand-chose dans cette... C'est extraordinairement technique.
C'est technique. Nous, c'est vrai que c'est un vrai challenge, parce qu'il faut... je pense qu'il y a un changement de culture à opérer. Ce qu'on essaye de mettre en place, ce sont des glossaires, ce sont des explications techniques au sein de nos rapports, en fait, pour expliquer les mots qu'on utilise, les techniques qu'on utilise, et pour essayer d'être au plus proche de la compréhension du public qu'on a en face de nous.
Mais est-ce que c'est suffisamment stabilisé, votre science? Est-ce que on n'est pas dans un domaine qui est complètement nouveau, Galerie de Fleury, et que vous êtes en quelque sorte, vous innovez en le faisant?
Non, on va être modeste. C'est quelque chose qui existe depuis quand même de nombreuses années, qui est utilisé dans la police scientifique depuis longtemps dans pas mal de pays anglo-saxons, qui est aussi utilisé...
Qui est assez nouveau en France quand même.
En France, je me prononcerai pas sur les capacités de nos différents corps de police, parce que je les connais pas encore très bien, mais ça existe de toute façon dans les journaux aussi, dans les médias, dont on le voit depuis longtemps. Forensic Architecture est un des premiers à avoir montré ça au public, mais
depuis quoi, 3 ans, 5 ans maximum?
Non, depuis une dizaine d'années maintenant.
Ah oui.
Ouais, depuis une dizaine d'années, et on a des articles qui remontent à 94 sur ce genre de technique.
Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue de réfléchir sur ce qu'apportent les OSINT, c'est-à-dire l'utilisation des sources ouvertes numériques, qu'elles apportent à la justice, en compagnie de Galdric Fleury, qui a une agence qui produit des reconstitutions, et Hervé Le Teuqueux, qui a choisi de cette chanson 1936 par Marc Kozelek et Jimmy Laval. Hervé Le Teuqueux, la transparence. Quand vous utilisez des images, est-ce que vous prenez en compte ce qu'elles racontent déjà, ces images? Elles sont jamais totalement objectives.
Bien sûr. D'abord, les images, elles peuvent, par exemple, dans le cas d'un conflit, elles peuvent être produites par un camp ou un autre.
Oui, oui.
Donc, ce qui est intéressant, c'est un petit peu de se détacher.
Mais quand elles sont prises par des victimes, par exemple, je prends l'exemple de la Syrie. Mm-hmm. À la Syrie, il y avait les forces gouvernementales, il y avait les forces de résistance, mais les organisations civiles et civiques, elles étaient victimes surtout.
Oui, bien sûr. Elles étaient victimes, donc... Évidemment, on les prend dans le contexte. Ce qui était intéressant dans la remarque sur la transparence, c'est que on essaye en OSINT d'être le plus transparent possible sur la méthode, par exemple, et de documenter d'où proviennent ces sources, de les prendre telles quelles, évidemment, de les analyser, mais de les sourcer surtout, et d'expliquer d'où elles proviennent. Et un des aspects qui est, à mon sens, le plus important dans la méthodologie de l'OSINT et dans ce qu'elle peut apporter en tant qu'élément de preuve devant la juridiction, c'est cette idée que l'enquête OSINT, c'est une enquête dans l'enquête. C'est-à-dire qu'on va produire une investigation, la documenter et la rendre réversible. C'est-à-dire que le lecteur, ce qui peut être l'avocat, qui peut être le magistrat devant la cour, va pouvoir lui-même refaire l'intégralité de l'enchaînement de l'investigation, pouvoir consulter lui-même les pages. À ce besoin, on va essayer de les archiver, parce que on a l'impression souvent sur Internet, tout reste, mais en réalité, tout disparaît, ou tout a tendance naturelle à disparaître. Donc, il faut pouvoir les archiver. Et en fait, on va permettre cette réversibilité de l'investigation. Et je pense que c'est ça qui, fondamentalement, amène ce côté transparent et ce côté, cette forme de neutralité.
Oui, Aurélie Aumettre, vous êtes juriste, vous êtes mis à l'OSINT depuis longtemps, mais donc les questions de droit vous intéressent?
Oui, alors bien sûr, je voudrais juste ajouter pour que les auditeurs notamment comprennent bien, évidemment on ne base pas un dossier uniquement que sur de l'OSINT, il faut quand même oui. aussi le dire. Donc on va avoir certains éléments qui sont issus de la source ouverte, et puis il va y avoir d'autres éléments, toujours de toute façon des témoignages. Des auditions, des interrogatoires, de mis en examen quand ils sont présents.
Oui, mais quand un juge voit une scène, parce que là je parle quasiment d'expérience, quand on voit une scène, on a des témoignages dessus, on a des rapports d'expertise, on a des expertises balistiques, on a mille choses. Mais sauf que voir une scène, c'est tout à fait différent. C'est par certains côtés la reine des preuves.
Ça génère un certain pouvoir, en fait.
Bien sûr, un pouvoir de conviction qui est beaucoup plus fort que d'entendre un témoignage.
Effectivement, et d'autant plus dans des dossiers où on ne peut pas se rendre sur place, alors pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que parfois les États ne coopèrent pas. Et donc, ça offre une fenêtre, hein, quelque part, sur un conflit. Et c'est très difficile, ça permet aussi de voir la souffrance qui est infligée. Mais c'est quand même, et les magistrats bien sûr ont l'habitude de ça, c'est quand même un élément de preuve qui peut avoir une force probante plus ou moins importante, et ça c'est quelque chose qui entre en ligne de compte, et qui va être corroboré par d'autres éléments, ou pas, et parfois qui va être écarté.
C'est ça. Galerie de Fleury, on disait à l'instant que c'était une enquête dans l'enquête. Quand vous faites une reconstitution très précise, vous y passez des heures et des heures, peut-être même des centaines d'heures à faire ce...
Oui, on y passe du temps, oui, bien sûr. Après, moi, je voulais surtout rebondir sur ce que vous disiez sur les images témoins, parce que je pense que c'est important de comprendre que vous disiez quand on a vu quelque chose, finalement, c'est difficile de passer outre cette preuve-là. Je pense que justement, c'est une culture qu'il faut transformer, parce que l'image est complexe à comprendre, et là, il faut la déplier.
Alors justement, Galdric Fleury, justement, quand je regarde des preuves que vous apportez devant une cour, vous proposez une sorte d'hypervision, parce que on voit les images réelles, qui sont pas très bonnes en général, des caméras de surveillance, de vidéosurveillance, et en même temps qu'on voit une image, on voit toute la métrique derrière que vous apportez, qui fait qu'on la voit beaucoup mieux que ce qu'on avait vu.
Alors, on la voit beaucoup mieux, mais il faut aussi ne pas la masquer. C'est-à-dire, c'est toute la difficulté de ce processus, c'est réussir à ne pas se substituer à l'image source, garder l'image témoin comme telle, inchangée, et en même temps, ajouter des choses pour pouvoir la lire mieux, la comprendre mieux, mais sans jamais s'y substituer.
Et vous n'avez pas l'impression que vous apportez la reine des preuves dans un procès, ce qui va emporter la conviction de tout le monde ? Ça vous fait pas peur, ça ?
Ça peut être un peu vertigineux, en effet. C'est vrai que comme on arrive souvent en fin d'enquête, ça peut être un peu vertigineux. Je pense que c'est aussi, plutôt nous, ce qu'on apporte, c'est une synthèse aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un outil, une plateforme, pour débattre de...
C'est ça, c'est une synthèse déjà d'énormément d'éléments de preuve.
Tout à fait.
Et donc cette synthèse, elle est plus forte que le tout est plus fort que les parties.
Antoine Garapon, est-ce qu'on ne fait pas déjà ce procès à l'ADN ? Et est-ce qu'on ne fait pas de reine des preuves ?
Oui,
et est-ce qu'on
ne
fait pas aussi ce procès, par exemple, sur le traitement des fadettes dans un procès ou des analyses téléphoniques ? Je crois que c'est c'est, encore une fois, l'OSINT ou la modélisation 3D n'est qu'un élément de la procédure qui est, comme le disait Aurélie Maître, croisé, recroisé avec d'autres éléments.
Mais vous avez raison, mais l'ADN ne parle pas. L'ADN ne parle pas. On l'a fait parler, oui, on l'a fait parler, mais l'ADN ne dit pas s'il y a du consentement, par exemple, en matière de viol. On sait que c'est capital. Là, quand on voit des scènes, et dans toutes les vidéos que j'ai vues, et dans toutes les vidéos, j'allais dire, phares de l'OSINT, il y a du son, il y a de l'image, il y a du son, il y a quelque chose d'ailleurs qui est assez impressionnant. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus puissant qu'une trace ADN.
Mais alors. Pour retenir la responsabilité individuelle de quelqu'un, pour autant, enfin c'est quand même relatif, enfin c'est pas si fréquent d'avoir une vidéo où l'individu tue.
Je pense à la vidéo qui a été tournée par la BBC au Nord Cameroun.
Mm-hmm. Oui.
Tommy Fakeling.
Oui, voilà, voilà,
BBC
c'est ça.
Africa, oui. Eye,
c'est ça. Et cette, elle est tout à fait saisissante parce qu'on voit le crime se passer devant nos yeux.
On voit le crime, mais il a fallu tout un travail minutieux et rigoureux pour déjà déterminer dans quel pays avait été tournée cette vidéo.
Et c'est tout à fait étonnant le travail qui est fait pour identifier sur une petite vidéo, sur un continent vaste comme l'Afrique, ouais. Ce qu'on croyait être au Mali est en fait au Cameroun et on
exactement.
Ne sait pourquoi.
Il y a même eu une analyse topographique pour essayer de déterminer l'endroit exact, pour effectivement identifier en fait les militaires. Et il y a donc eu un procès. Mais alors j'ai lu juste très récemment, je ne le savais pas, j'ai découvert qu'en fait il y avait eu une petite aide par rapport à l'enquête sur cette vidéo. Il y a eu une source en fait qui a donné un élément en fait qui a permis alors, en fait d'avancer un petit peu plus rapidement.
C'est ça, une voilà. source. Mais c'est très important.
Donc ce comme que quoi vous c'est dites. Complémentaire.
Mais bien fait. Sûr, c'est très important ce que vous dites, c'est que finalement une image, elle prend sens. Même l'image la plus évidente et la plus terrible, elle prend sens quand elle est regardée à plusieurs, quand elle est regardée à plusieurs et quand elle est corroborée, Hervé Le Toque, quand elle est construite par un regard pluriel qui n'est pas uniquement celui d'un juge. Oui, Aurélie.
Et justement, à l'inverse, je pense à. J'ai plus le détail en tête exactement, mais je crois que c'était devant la Cour pénale internationale l'affaire Bemba, donc qui concernait la République centrafricaine. Et en fait, à l'étude, je crois, lors du procès d'une des vidéos et grâce au travail mené par la défense, en fait, une vidéo a été écartée parce qu'ils se sont aperçus que ce n'était, alors je crois, soit une vidéo qui a été tournée dans un autre pays. Ou en tout cas qui était pas du tout objectif, etc. Donc il y a des vidéos aussi qui sont écartées et qui ne sont pas reçues, enfin admissibles en tant que preuve.
Gédric Sauvéry.
Oui, moi je voudrais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'OSINT, c'est qu'il y a évidemment toute une partie qui essaye d'authentifier les images au niveau technique, c'est-à-dire de savoir si les images ont été transformées. Il y a aussi une partie, comme parlait Hervé Le Toque, de traçabilité. Mais il y a en dernier une validation horizontale finalement qui se fait du corpus lui-même en fait. C'est-à-dire que ce sont les images plurielles qui vont s'auto-valider les unes les autres et qui vont à la fois faire comprendre l'événement, mais aussi le rendre authentique. Et ça, je pense que c'est vraiment un apport énorme de ce genre d'analyse.
C'est donc le croisement,
la relation en fait. Ce sont les relations qui créent la preuve.
Hervé Le Toque, c'est donc ce croisement. Il y a des techniques aussi pour le croisement des images.
Bien sûr. On utilise ce qu'on appelle souvent des images de référence, notamment. C'est-à-dire que si vous voulez documenter un lieu, notamment sur des images de très mauvaise qualité, ce que vous allez chercher, c'est à constituer un corpus d'images de référence d'un lieu équivalent pour essayer vraiment de définir précisément où a été placée, par exemple, la caméra qui filme la scène. Et donc, ces comparaisons d'images sont essentielles, en fait, dans une enquête OSINT.
Oui. Alors, il y a quand même une question qui se pose, c'est que toutes ces preuves sont rapportées par des ONG, par des militants, par des gens qui n'ont pas conscience qu'ils sont en train d'offrir des preuves à la justice, mais les services de police sont complètement dépassés, ils sont complètement contournés, plus exactement, Aurélie Maître.
Alors, si les services d'enquête eux-mêmes aussi procèdent à des recherches, notamment en sources ouvertes, je sais que les enquêteurs avec lesquels on travaille, pour certains, ont été formés.
Ils ont été formés par des ONG.
Ou, enfin non, par du coup l'association Open Facto.
Oui, oui, c'est ça. Bon,
à la recherche en sources ouvertes, et ils ont l'habitude de ça. Ils se forment aussi à certaines techniques puisque c'est leur métier en l'occurrence. Donc eux-mêmes peuvent être, on va dire, proactifs en fait dans la recherche. Oui. C'est leur métier. Ils enquêtent. Donc il y a plusieurs sources en fait. Nous-mêmes aussi en tant qu'assistants spécialisés, on peut procéder à des recherches. Il y a des experts aussi qui peuvent être désignés.
Tout le monde peut s'y mettre finalement.
Tout le monde peut s'y mettre. Les avocats vont transmettre, verser en fait des éléments. Et ensuite c'est au travail c'est au magistrat de déterminer la valeur probante de ces éléments et de se positionner.
Mais je pense qu'on trouve pas tous exactement la même chose parce qu'on cherche pas exactement la même chose. Et c'est vrai qu'il y a, je pense que dans les enquêteurs, dans les services de police, on se concentre beaucoup sur l'événement lui-même, c'est-à-dire sur le crime, si on peut le voir ou si on est très proche du moment du crime ou de l'exaction. Pardon. Nous, c'est vrai que on va aussi récolter les éléments périphériques. Parce qu'en fait, on a besoin d'une connaissance qui est beaucoup plus grande de l'événement, et on va aller chercher, même très loin finalement, dans la timeline, c'est-à-dire dans la temporalité, pour essayer de reconstruire les actions, même avant et après, des acteurs qui peuvent nous renseigner finalement sur comment s'est passé l'événement au complet.
Alors, il y a un mot qui est souvent prononcé et qui est un mot, bien sûr, en faveur de l'exploitation des usines, c'est le terme de démocratisation. Finalement, ces images, la production des images, leur exploitation voudrait dire que des crimes parfois très graves, et les plus graves, sont en quelque sorte... Tout le monde, un grand nombre d'acteurs contribuent à la manifestation de la vérité, qui viennent de tous les pays du monde, y compris, encore une fois, de l'aérosatellitaire. Et donc, on aurait une justice plus démocratique. Vous pensez quoi de cet argument, vous ?
Alors, justice plus démocratique, j'en sais rien. Ce que je constate, c'est que depuis une quinzaine d'années, dans différentes juridictions européennes, voire internationales, l'OSINT a pris pied. Très clairement, on a vu par exemple dans le cadre de l'affaire Verfali. Alors Verfali, c'était un chef de guerre libyen dont la spécialité en fait était d'arrêter ses opposants et puis de les exécuter et de publier les vidéos sur Internet.
Et bien, toujours cette même gloriole qui se retourne contre les auteurs.
Absolument.
Oui.
Et l'idée, en fait, ce qui a vraiment changé dans cette affaire, c'est que l'analyse qui a été de ces images, la géolocalisation, la chronolocalisation, c'est-à-dire l'identification du moment du crime, a été faite par l'ONG, Bellingcat. Et en fait, c'est sur la base de cette authentification qu'a eu lieu la délivrance d'un mandat d'arrêt international.
Vous venez de le dire vous-même. Bellingcat, c'est beaucoup plus forte qu'Interpol. C'est-à-dire, Bellingcat, elle arrive, c'est une ONG britannique.
Non, je crois vraiment qu'on peut pas mettre les deux en comparaison. Je pense que, encore une fois, l'apport de l'OSINT ne révolutionne rien. L'apport de l'OSINT, c'est complémentaire. Ça comble un angle mort. Et ça permet de documenter d'une manière un petit peu différente, encore une fois sans moyens coercitifs, ça permet de documenter une scène de crime, et c'était pas forcément étudié.
Et justement, en parlant de sans moyens coercitifs, parce que en fait c'est aussi ça l'intérêt, quand il y a des procédures qui sont à un stade très précoce, par exemple pour des cabinets d'avocats, préparer et déposer une plainte, que ce soit devant les juridictions françaises.
Ça permet souvent d'initier un procès.
Voilà, exactement. Devant la Cour pénale internationale, on peut déposer ce qu'on appelle des communications. Ça peut permettre l'ouverture de ce qu'on appelle un examen préliminaire. À ce stade-là, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ne dispose pas de pouvoir d'enquête. Oui. Il n'a pas de force de police propre.
Donc ça lui est très très utile.
Donc ça lui est très très utile. Et c'est évolutif. Donc ensuite, ça va être... du coup, il va y avoir d'autres pouvoirs d'enquête qui vont être exercés. Le bureau du procureur qui, en l'occurrence, dispose d'une division des enquêtes qui s'est équipée en la matière depuis les années...
Et qui ne fait que de l'OSINT, quoi.
Alors, ils ne font pas que de l'OSINT, mais il y a un comité consultatif en matière de criminalistique, scientifique, qui a été créé depuis, je crois, 2014, pour diversifier en fait les preuves, parce qu'il y a eu aussi effectivement quelques loupés, échecs dans certaines procédures et même dans certaines condamnations, dans les jugements de condamnation. Je pense à l'affaire Germain Katenga. Les juges avaient précisé qu'il était nécessaire de diversifier les éléments de preuve et de ne pas rester que sur des éléments de preuve testimoniaux. Le bureau du procureur, en l'occurrence, C'est beaucoup a beaucoup changé et a en fait carrément mis en place une stratégie en la matière et utilise notamment l'OSINT parmi aussi d'autres éléments plus criminalistiques et forensiques.
Galdrit Fleury, sur cette question de la démocratisation, alors vous, c'est quand même assez particulier, mais sur la question du contradictoire, est-ce que vous avez l'impression que, toute la subtilité et les techniques incroyables que vous utilisez pour reconstituer des... Est-ce que les avocats et les juges peuvent la comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas un argument d'autorité quand vous dites, bah voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on peut dire, on peut dire que la voiture était à 1,95 de la personne par exemple, etc. Qui viendra le contester?
Nous, on laisse tout ce qu'on a trouvé pour que les gens puissent le contester. Mais... maintenant, je pense pas que en général les dossiers se jouent forcément que là-dessus. C'est-à-dire que il y a pas que ça qui entre en jeu. Et
vous avez l'impression que les avocats sont, par exemple, les avocats, on n'a pas beaucoup parlé des juges, mais les avocats se penchent vraiment dans le détail de ce que vous faites, les parties sont...
Je pense que c'est encore difficile à dire. Il y en a qui voient le potentiel qu'il peut y avoir, mais aussi pour eux. Mais je pense que ça va venir. Et c'est quelque chose qui va falloir mettre en place. Il va falloir que tout le monde s'habitue. C'est ce que je disais, il faut un vrai changement de culture. Et ça va prendre un petit peu de temps.
Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue de réfléchir sur les OSINT. Et j'espère que les auditeurs ont maintenant retenu cet acronyme en compagnie d'Aurélie Aumettre et d'Hervé Le Toqueux, qui sont des assistants spécialisés au pôle antiterroriste crime contre l'humanité, et Galdrit Fleury qui lui dirige une agence qui produit des reconstitutions. Galdrit Fleury qui a choisi de nous faire entendre cet air pimp. Je pense que les auditeurs ont retrouvé la bande originale du film Anatomie d'une chute, une musique composée par Bakayo Rhythm et Steel Band. Pourquoi ce choix?
Alors parce que depuis que le film est sorti, en fait, tout le monde nous dit que c'est ce qu'on fait, ce qu'on voit donc dans le film. À un moment donné, c'est un expert au tribunal qui présente une vidéo 3D qui serait sa version des faits. Et donc voilà, c'était pour le dire enfin au public. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Ici, il n'y a qu'un scénario qui est proposé, qu'une seule hypothèse qui ne s'appuie pas sur des images, et on voit tous les enjeux de ces représentations-là lors d'un procès qui peuvent avoir un effet de réel très fort. Et donc, c'est ça, apprendre avec beaucoup de vigilance.
C'est ça, un effet de réel et un effet de conviction. Alors que la justice, Hervé Le Teucque, c'est un exercice, le procès pénal, c'est un exercice du contradictoire.
Oui, ce qui a été dit juste avant me semble très important, et notamment sur aujourd'hui, dans les juridictions françaises, sur la place de la défense, ou en tout cas des avocats. Et je trouve que dans l'OSINT et dans la manière dont elle peut être traitée, c'est en ça que la méthodologie et puis la qualité du rapport d'analyse OSINT qui est fourni dans la procédure par les enquêteurs, par les ONG, est intéressant. C'est-à-dire qu'on offre là la possibilité, en fait, au lecteur, encore une fois, de refaire cette enquête et d'amener des éléments qui sont factuels et extrêmement précis. Et le deuxième point qui était soulevé tout à l'heure par Aurélie Maître, c'était cette idée que l'avocat pouvait lui-même amener des éléments de preuve en début de procédure ou durant le procès. Et je trouve qu'il y a dans l'aspect de l'OSINT une forme de réappropriation ou en tout cas de remise au centre du jeu de l'avocat dans la procédure française, qui n'est pas inintéressant,
mais qui est complètement nouvelle. Qui est
absolument
complètement nouvelle, parce que le point d'articulation est nouveau, Aurélie Maître.
Oui, et c'est vrai que ça permet, dans une certaine mesure en tout cas, de rééquilibrer un petit peu, alors même si...
Donc c'est contre-intuitif, donc dans, finalement le fait qu'il y ait cet élément de preuve, qu'il y ait ce degré de comment dirais-je, d'expressivité, peut augmenter le contradictoire.
Oui, moi je, à mon sens,
c'est l'expérience que vous en avez.
Alors je sais pas si c'est l'expérience, c'est peut-être aussi ce que je souhaite.
Oui, ah ben oui, on le souhaite tous.
Mais je trouve qu'effectivement c'est intéressant, et puis on n'a pas assez de recul pour le moment. Mais en tout cas, ça offre certaines possibilités, je trouve, aux avocats. Alors après, évidemment, il y a aussi quand même certaines difficultés qu'on va.
Ah ben, oui, puis moi il y a une difficulté que je vois, et on n'en a pas encore parlé, mais c'est celle de l'argent.
Exactement.
C'est-à-dire ça coûte très cher, ces choses-là.
Le coût de se former, mais en l'occurrence, nous ne sommes pas plus formés pour l'instant que certains avocats, puisqu'il faut quand même le dire, pour faire de l'OSINT, notamment dans les juridictions, en l'occurrence française, il faut avoir l'équipement pour, des réseaux qui le permettent, etc. Et c'est pas toujours le cas. Et il faut être formé. Pour le moment, c'est plutôt lié à une appétence en fait particulière de certains personnels, ça va, je pense, comme on parlait de changement de culture, je pense que ça va changer, c'est en train de changer. Et peut-être qu'il faudra trouver aussi le moyen pour les avocats d'investir ça, mais ils peuvent se permettre aussi de payer certaines formations qui, en France en tout cas, sont beaucoup moins chères qu'à l'international.
C'est ça, Hervé Le Teucque.
L'OSINT, c'est pas vraiment très cher en réalité.
Une connexion internet, c'est à la fois pas cher du tout parce que c'est accessible par tous.
C'est accessible.
Mais ce qui est cher, c'est d'en transformer cela en une preuve.
Absolument. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Je pense que si aujourd'hui un avocat de la défense devait refaire une expertise telle que Galdric Fleury l'a fait, ça serait assez compliqué pour l'instant en tout cas. Et ça, c'est effectivement un vrai problème. Mais on rencontre déjà ce problème aujourd'hui dans l'analyse, par exemple, des facturations détaillées télécom. C'est-à-dire que c'est excessivement difficile aujourd'hui pour un avocat de la défense de refaire le cheminement et d'avoir la ressource logicielle matérielle pour traiter des millions et des millions de lignes de télécommunications.
C'est ça. Il y a une question de mise à niveau. Il faut élever en quelque sorte d'un niveau, d'un cran supplémentaire, le contrat. Oui, Aurélie Omen, vous voulez dire.
Et je rejoins ce que vient de dire Hervé Le Teucque, parce que en fait, aussi faire de l'OSINT, moi je l'ai découvert en me formant pour l'instant de manière assez épisodique, mais à l'OSINT, c'est du bon sens, beaucoup d'observation, beaucoup de curiosité.
Beaucoup d'humilité aussi.
D'humilité, on en parlait tout à l'heure, beaucoup d'humilité, parce que parfois c'est aussi juste savoir rechercher correctement avec des mots-clés dédiés sur des moteurs de recherche, et on ne sait pas tous le faire, être assez créatif quelque part. Ce qui peut coûter cher, c'est plutôt effectivement les formations, mais en soi, un équipement de base, un ordinateur avec une connexion sécurisée, avec un certain nombre d'éléments de sécurité qu'il faut mettre en place.
C'est en ça que c'est démocratique. D'ailleurs.
C'est démocratique. Et ensuite, ce qui peut par contre coûter cher, c'est le temps de travail d'un avocat qui est seul face à un volume de pièces qui est quand même assez considérable dans certains dossiers. C'est là que ça
Oui, et puis c'est l'investissement, il faut des cabinets très spécialisés, parce qu'il faut, c'est l'investissement, le coût d'entrée dans ce, dans ce nouveau régime de preuve est très très élevé. Alors, Galdric...
Non, moi je voulais revenir sur l'humilité et sur le collectif aussi. C'est-à-dire que c'est un travail qui est profondément collectif. C'est quelque chose qui est difficile de faire seul, parce que déjà il faut toujours un autre regard à tous les moments de l'enquête aux INT et de l'enquête et de la reconstruction.
C'est-à-dire qu'en fait, le contradictoire est internalisé.
Alors, il y a déjà. Alors, je me permettrai pas de dire ça parce que non, il y a.
Je veux dire, vous êtes.
Mais en tout cas,
il y a plusieurs.
En tout cas, il y a vraiment une notion collective et c'est très important. Ça permet vraiment de recouper toutes ces informations et de rester modeste justement.
Alors, restez modeste, mais on voit bien, les auditeurs l'auront compris, depuis le début de cette émission, on est un changement de culture profond du procès pénal, et qui est une des conséquences du numérique. On a l'impression, pour l'instant, dans cette transition, c'est une transition qui cherche ses normes, en quelque sorte, Hervé Le Teuqueux, c'est-à-dire, comment est-ce que on va pouvoir introduire un petit peu... Quoi, est-ce que le principe de la liberté de la preuve, par exemple, qui est un principe cardinal en droit pénal, est-ce qu'il ne faudra pas mettre un peu d'ordre dedans?
Ben, je pense qu'il faut le garder en l'état. Moi,
mais bien sûr, il faut le garder en l'état.
Et d'ailleurs, la jurisprudence récente au civil montre qu'elle se calque sur
le... Oui, mais on va prendre l'exemple des images truquées, par exemple. La fiabilité de l'image. Validité de la méthode qui a été utilisée pour l'interpréter. Tout ça, c'est des questions qui demandent, alors c'est pas des grands principes comme la liberté de la preuve, mais c'est quand même des principes dont va dépendre l'issue d'un procès.
C'est vrai, mais encore une fois, on a toujours moyen d'analyser une image avant son acceptation. Ce qu'il va peut-être falloir faire, c'est améliorer l'étude et l'examen des pièces, peut-être, probablement. Mais je pense que ce principe cardinal en droit français, qui est la loyauté de la preuve, doit rester assez fondamental. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir cette forme de souplesse, en fait, et de recueillir beaucoup plus facilement que devant certaines juridictions, je pense aux juridictions de droit anglo-saxon, la preuve en OSINT, de manière beaucoup plus aisée en droit français.
Alors, Aurélie, Omaître, comme toujours, quand il y a un vide juridique, il y a de la soft law, il y a du droit mou, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont penchés sur la question de savoir à quelles conditions la preuve aux INT devrait être régulée, j'ose pas dire régulée, mais quels sont les principes éthiques qui devraient la gouverner.
Alors, à ma connaissance en
droit français, il n'y en a pas, voilà, mais dans le monde, parce qu'on est à un niveau qui est totalement global, là.
Dans lequel les
ONG anglaises et anglo-saxonnes mènent la danse, quoi. Je parle sous votre contrôle.
Tout à fait. Et ils ont une longueur d'avance.
Voilà. Clairement, très grande.
Et notamment aussi pour le contentieux sur lequel je travaille, en droit international pénal, que ce soit la Cour pénale internationale, différents organismes sont à la pointe. En fait, en 2022, le premier protocole donc sur l'utilisation de la preuve en source ouverte en matière de violation de droits humains et puis de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, a été publié conjointement entre l'Université de Berkeley en Californie et le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies.
C'est curieux, c'est-à-dire qu'en fait, une organisation internationale s'est réunie avec une université pour énoncer ses principes.
Exactement, mais parce que c'est une vraie question, ils ont anticipé depuis bien longtemps, en fait, ce recours à l'OSINT.
C'est la force de l'université américaine, oui.
Oui, voilà. Et ils ont aussi un institut donc spécialisé qui forme notamment, et de manière très précise, à l'OSINT.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, de votre point de vue, Galdric Fleury, qui est un point de vue un peu différent? Vous êtes finalement commandité par la justice. Dans quelle direction faudrait penser l'avenir de cette transition culturelle entre la preuve ordinaire, matérielle, matérialisée et l'OSINT?
Je pense qu'on peut s'attendre à ce que il y ait de plus en plus de structures comme la nôtre qui se créent, et je pense que
ce serait une bonne chose.
Je pense que on va, à l'instar des médias en fait, qui se sont saisis depuis maintenant 5 ans, 6 ans de ces questions-là, je pense qu'il va se passer la même chose dans la justice, petit à petit. Après, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encadrer, qu'il faut regarder de près. Maintenant, je peux pas après dire ce qui...
Oui, mais il faut aussi qu'il y ait des juges à la hauteur, qu'il faut aussi qu'il y ait une institution qui apprenne à utiliser ce type de preuves. C'est déterminant.
Je pense qu'en fait, il va falloir que on entre dans la culture les questions esthétiques, en fait, les questions de l'image.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, oui. La question de la rhétorique de l'image, de ce que veut dire une image, de qu'est-ce que c'est techniquement une image, c'est-à-dire que, mais aussi, comment est-ce qu'on l'analyse et qu'est-ce qu'on peut lui faire dire, c'est-à-dire tout au long de son analyse. Et ça, c'est très nouveau et il va falloir travailler dessus pour minimiser les biais de, à la fois des enquêteurs et
d'interprétation.
Et du public.
Voilà. Et d'interprétation. Et ça, c'est un travail en commun, Aurélie Aumettre.
Oui, et on en revient à la nécessité de former, hein, et de, par exemple, sur la sémantique utilisée, je pense aux métadonnées, par exemple, tout simplement. Oui. Qu'est-ce que des métadonnées? Donc c'est quelque chose. Alors je reviens sur justement ce protocole de Berkeley. La traduction française vient de sortir début janvier 2024, et il y a tout un glossaire, par exemple, sur la terminologie employée, et il y a aussi à la fin des formulaires types. À l'attention des enquêteurs, des magistrats, de n'importe quelle personne.
Pour créer une culture commune.
Pour créer une culture commune avec une fiche à transmettre sur quand on collecte un élément issu de la source ouverte, qu'est-ce qu'on doit retrouver au tout début de l'émission. Vous avez exposé le fait que vous exposez la méthodologie au début de votre rapport, aussi expliquer le mandat, hein, le juge d'instruction, qu'est-ce qui vous a requis, qu'est-ce qui vous demande concrètement. On le fait dans les rapports d'assistants spécialisés, dans les procès-verbaux des enquêteurs, c'est aussi fait. Tout est transparent, tout est expliqué, et c'est ça qui est important, en fait.
Hervé Le Toqueux, vous êtes particulièrement sensible à ces questions de formation, parce que c'est finalement ce qu'a été votre évolution après avoir été assistant spécialisé. Vous avez ressenti le besoin d'une formation, et d'une formation la plus ouverte, la plus transversale possible.
Absolument. Ce qui manque, c'est la manière dont on va expliquer clairement dans un procès-verbal ou dans un acte d'enquête ou dans un acte d'expertise la méthodologie, la démarche qu'on va employer. Cette idée d'acculturer, l'association forme des journalistes beaucoup, mais également des citoyens qui veulent se former. Aujourd'hui, c'est comment on amène un degré de standardisation suffisant pour pouvoir faire entrer l'OSINT devant les cours. Et ça c'est cette judiciarisation finalement de l'OSINT est excessivement importante.
C'est excessivement important, mais c'est intéressant, les auditeurs l'auront compris, c'est qu'on voit qu'on est dans un paysage judiciaire pour des crimes importants dans lesquels il y a des acteurs totalement nouveaux. Je pense aux ONG qui sont internationales, je pense aux journalistes dont vous venez de parler, c'est-à-dire que les enquêtes faites aujourd'hui par Le Monde, par exemple, ou par Libé, ou par Mediapart, hein, pour citer les grands médias français sur ce domaine-là sont tout à fait à la pointe et tout à fait étonnants d'ailleurs en termes de ce qu'ils apportent.
Ouais. Alors ce que je dis souvent en formation, c'est que les journalistes ne sont pas des auxiliaires de justice. Ça, c'est très important à savoir.
Non,
simplement,
ils
ont fait une belle enquête, ils ont publié et cherry on the cake, cerise sur le gâteau, cette enquête sert à ce qu'on appelle en anglais l'accountability, c'est-à-dire cette idée que on peut faire rendre compte à des gens de leur responsabilité dans un crime de guerre. Vous parliez tout à l'heure de l'enquête de la BBC sur Anatomy of a Killing, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a l'enquête journalistique, et cette enquête sert à documenter un crime et donc à obtenir réparation devant la justice. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et ça ne fonctionne que si la preuve a été collectée de manière correcte. Et c'est ce qu'on essaye d'enseigner, en tout cas.
Un mot pour terminer, Cédric Gendrick Fleury, sur un vœu pour l'OSINT dans la justice.
Moi, je pense que c'est pas pour l'OSINT dans la justice, c'est pour l'OSINT en général. C'est-à-dire que je crois que là, on arrive à un moment où on a énormément de dangers, hein, au niveau des sources, des images qui circulent sur Internet. Et j'espère qu'on va continuer dans un État démocratique, avec une société civile imaginative, à se battre contre toutes ces images fausses.
Eh bien, nous resterons sur ce propos optimiste. Merci beaucoup à tous les trois. Esprit de justice est terminé ce soir. soir. À la technique, il y avait Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Sandrine Chapon. C'est une émission d'Antoine Garapon.